VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Changement climatique, 4 mois après l'euphorie de la COP21, la conférence mondiale sur le climat, 171 pays se retrouvent aujourd'hui au siège de l'ONU à New York pour signer l'accord de Paris sur le changement climatique. Un traité international censé ralentir le réchauffement de la planète. Jacques Aristide.
Une grand-messe onusienne à laquelle doivent prendre part plus d'une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement, de même que des dizaines de hauts responsables. Cette cérémonie de signature fait suite au succès de la conférence de Paris sur le climat en décembre dernier. Jamais un accord international n'aura été signé par autant de pays en un seul jour, a déclaré la ministre française de l'Environnement, Ségolène Royal, qui préside la COP21. Il s'agit de pays dont les intérêts divergent. Certains pauvres, d'autres très riches, d'autres producteurs d'énergie fossile, d'autres en guerre. Des pays unis néanmoins sur les dangers que posent les changements climatiques. Mais la partie est loin d'être gagnée. La signature d'aujourd'hui doit être suivie par une ratification, car pour entrer en vigueur, l'accord de Paris doit être ratifié par au moins 55 pays représentant ensemble au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, est à New York pour participer au sommet sur le climat. Lors de son tête-à-tête jeudi avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le leader centrafricain a évoqué les accusations d'abus sexuels contre les casques bleus en RCA. Faustin Archange Touadéra, au micro de Jacques Aristide.
Ces questions d'abus sexuels est une question grave qui touche toute la société, tous les Centrafricains sont touchés par cette situation. Mais ce que nous voulons, c'est que la justice soit rendue. Et qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport aux enquêtes qui sont menées, les autorités centrafricaines ne sont pas souvent associées à cela. Notre souhait, c'est ce que j'ai dit au secrétaire général, que s'il y a des cas qui sont avérés, que au moins nous soyons informés et que nous soyons associés à la recherche de la vérité à ce niveau-là. Nous allons aussi, compte tenu des dispositions actuelles concernant cette situation, faire aussi, dans le cadre bilatéral, discuter avec les pays contributeurs pour accélérer le processus, parce que dans les dispositions actuelles, la justice ne pourrait se faire que par rapport aux pays, aux contributeurs. Donc au jour d'aujourd'hui, les choses traînent un peu à ce niveau-là. Nous allons sensibiliser nos amis, ceux qui ont contribué au niveau des forces pour que la procédure soit accélérée, pour que la justice soit rendue à ces victimes.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, interviewé au siège de l'ONU par Jacques Aristide, entretien disponible sur voafrique.com. Au Tchad, le calme règne aujourd'hui à N'Djamena après la réélection du président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 26 ans pour un cinquième mandat dès le premier tour de la présidentielle du 10 avril. Le groupe de 8 candidats de l'opposition qui accuse le pouvoir de fraude électorale et a envisagé la constitution d'un gouvernement de salut public était en réunion ce vendredi dans la capitale. Plus de détails sur les résultats du scrutin avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
Idriss Déby Itno dépasse largement son principal opposant Saleh Kebzabo, qui lui totalise 12,80%. Le maire de la ville de Moundou, capitale économique du Tchad, Laouken Kourayo Médar, arrive en troisième position avec 10,69%. De la place de la nation se tient en face de son palais rose où il suivait les résultats en direct à travers un écran géant. Idriss Déby Itno a dédié cette victoire à tout le peuple tchadien.
Aux 108 partis politiques alliés, c'est votre victoire. Le peuple tchadien vient de nous dire que nous voulons poursuivre avec le candidat de tous ces jeunes et jeunes et de tout le peuple tchadien de tout horizon.
Selon la Commission électorale nationale indépendante, le taux de participation est de 76,11%. L'opposition n'a pas encore réagi. Reconnaîtra-t-elle la victoire du président sortant ou sa menace de former un gouvernement de salut national si la CENI lui déclare gagnant au premier tour reste en vigueur? Attendons de voir. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, le parquet a demandé aujourd'hui la perpétuité pour tous les 28 présumés putschistes jugés dans le procès devant la cour d'appel de Gitega dans le centre du pays. Les quatre généraux condamnés à la prison perpétuelle en première instance, dont l'ancien ministre de la Défense Cyril Ndaï Rukiye, reconnaissent leur participation dans la tentative de coup d'État pour, disent-ils, sauver la nation en danger. Mais ils affirment n'avoir tué personne ni détruit aucun édifice. Les présumés putschistes nient aussi le lien entre les manifestations d'avril contre un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza et le putsch manqué. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Après 9 jours d'audience publique, le procès en appel des présumés putschistes de mai dernier s'est clôturé ce vendredi. Le parquet demande une réclusion à perpétuité pour les 28 présumés putschistes. En outre, le procureur demande leur interdiction de travailler dans la fonction publique pendant 20 ans. Le ministère public a essayé de convaincre la cour sur le lien entre le coup d'État du 13 mai dernier et les manifestations anti-troisième mandat. Le présumé numéro 2 du putsch manqué, le général Cyril Ndaï Rukiye, qui a plaidé coupable de tentative de coup d'État sans la présence de son avocat, encore une fois affirmé qu'il cherchait le retour à la légalité constitutionnelle, car l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha venait d'être violé avec le troisième mandat controversé du président Pierre Nkurunziza. Le général Ndaï Rukiye indique avoir agi pour défendre la population, alors que les manifestations pacifiques contre le troisième mandat du président Nkurunziza étaient durement réprimées par certains membres de la police et de l'armée burundaise. Mais il nie toutes les autres accusations de destruction des bâtiments et d'assassinat de 41 policiers et 9 militaires, et par conséquent, ne pourra pas payer les dommages et intérêts estimés à plus de 10 millions de dollars américains. La cour d'appel de Gitega a déclaré qu'elle va rendre le jugement en ayant 30 jours. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, au Mali, libération de 3 collaborateurs du comité international de la Croix-Rouge enlevés la semaine dernière dans le nord-est du pays et que le groupe djihadiste en Sardine a affirmé retenir. C'est ce qu'annonce aujourd'hui Peter Maurer, président du CICR, le comité international de la Croix-Rouge. La meilleure nouvelle que nous pourrions avoir, nos 3 collègues du Mali sont libres, sains et saufs, a déclaré le numéro 1 du CICR. Cette information est confirmée par le porte-parole du CICR à Bamako, Valérie Mboa. Les 3 captifs ont été libérés ce matin. Ils sont à Kidal, chef-lieu de la région, a déclaré M. Mboa Nana à l'AFP en promettant plus de détails ultérieurement. Nigeria, Amnesty International accuse aujourd'hui dans un rapport l'armée nigériane d'avoir tiré délibérément sur 350 musulmans de la minorité chiite avant d'enterrer leur corps dans des fosses communes et de détruire les preuves de ce carnage. Plus de précisions avec Michel Joseph.
Les 12 et 13 décembre, des affrontements s'étaient produits à Zaria, fief du mouvement islamique du Nigeria, IMN, dans l'état de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Des membres de l'IMN en procession religieuse avaient bloqué le convoi du chef d'état-major des armées, le général Tukur Youssouf Bouratai, provoquant une répression brutale de l'armée. Dans son rapport, Amnesty International juge sans fondement les allégations de l'armée selon lesquelles les partisans de l'IMN auraient tenté d'assassiner le général, une accusation formellement démentie par le groupe chiite. L'armée, qui a souvent été accusée d'abus à l'encontre des civils dans la lutte contre l'insurrection sunnite Boko Haram, maintient que ses troupes ont réagi à Zaria de manière appropriée. Selon elle, le chef chiite est en convalescence et le bilan des violences de Zaria ne dépasse pas les 7 morts.
Et pour terminer, la méningite cérébrospinale à méningocoque, une maladie qui peut tuer en 24 heures, menace 450 millions d'Africains en 2016, ont alerté hier à Abidjan les spécialistes de 8 pays du continent. John Lydon.
La méningite à méningocoque est un fardeau mondial qui, selon les estimations, affecte chaque année 1,5 million de personnes et entraîne la mort de 135 000 d'entre elles, ont déclaré les médecins venus d'Afrique de l'Ouest et du Centre, réunis sous l'égide du groupe pharmaceutique français Sanofi. 26 pays qui composent la ceinture africaine de la méningite, s'étendant du Sénégal à l'Éthiopie, où vivent 450 millions de personnes, peuvent être lourdement touchés par des épisodes épidémiques, ont-ils averti lors d'une conférence de presse appelant à une riposte efficace. Le professeur Mamadou Keïta Marouf du Mali a préconisé une campagne de vaccination de masse pour prévenir une maladie qui décimait pratiquement une génération. Pour la professeure Yé Ouattara Diarra, son homologue du Burkina Faso, pays au cœur de la ceinture, la méningite est devenue un problème de santé publique. Il faut donc mettre un accent sur la surveillance épidémiologique pour la détection précoce des cas.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.